Wesh, on lâche rien, même en plein mois de juillet. Voilà, et donc vous aurez pu comprendre que Radio Galère a changé de local. Avec donc voilà le nouveau son du local. Bienvenue sur Radio Galère. Donc c'est NP Chaîne, on va essayer de vous faire quand même une émission spéciale dédicace à tous les enfermés dans les camps de hôpitaux psychiatriques. Putain, le son, c'est chaud. Et donc avec des extraits, alors peut-être s'il fait un agenda, je sais pas si quelqu'un veut prendre le micro.
Je suis pas très sûr. Donc sous la table. Ok. Alors pour l'agenda, une première chose, donc c'est mercredi à venir, mercredi 4 juillet. Dans un nouveau lieu, on va dire, qui s'appelle la caserne, qui est située derrière la caserne du Muy, donc le P4 peut-être, on n'a pas encore trouvé de nom, en fait. Qui est située au 1 rue Masséna à la Belle de Mai, donc vraiment derrière la caserne du Muy, et donc de mercredi soir à 19h30, il y a un rendez-vous. Pour aller voir un documentaire qui s'appelle De la Cuna à las Rejas, autrement dit du berceau au barreau. Donc c'est un film sur des centres de... J'ai pas vu le film, donc j'ai pas très bien compris, mais bon, il est présenté comme un film sur des résidences de protection pour enfants et adolescents qui ont ouvert au Chili. Dans le sud du Chili en avril 2011, qui fonctionnerait sous le principe des droits humains et des concepts anti-autoritaires et anti-répressifs depuis une perspective anticarcérale, si jamais ça vous dit quelque chose. Donc bref, donc c'est un documentaire de 25 minutes et ça commence à 20h30. Il y a un rendez-vous à 19h30 pour l'apéro, donc amener à boire, à manger. Et le film à 20h30, c'est au 1 rue Masséna à la Belle de Mai.
Ouais, très bien. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est un squat fraîchement ouvert dans lequel se répétera peut-être tous les mercredis dorénavant un peu une projection par là-bas. Sinon, on vous reparlera de la cantine pour cantiner. Ça a lieu le vendredi 13, il y a plein de vendredis 13 cette année. C'est encore pour notre camarade Michel Guélam, mais aussi voilà pour éventuellement se rencontrer, discuter de la zonze. Et comme là notamment... il fera peut-être très chaud. On a décidé, a priori, de le faire à l'extérieur, mais ça reste dans le quartier. C'est toujours rue Bernard. C'est ce qu'on appelle le coin pour tous. Et donc, on vous invite encore une fois à venir manger et faire preuve de solidarité pour un peu cantiner pour nos amis en prison. Voilà. Quelques d'autres choses à rajouter ? Hein ? L'agenda, voilà. Donc, sinon, voilà. On va... saluer tous les évadés qui courent encore et voilà, et faire un chapeau bas aussi à tous ceux qui pour l'instant restent inaccessibles, inattrapables, voilà. Et que dire, voilà, c'est parti, on passe donc c'est donc des extraits du dernier, une émission donc d'un journal dont on vous a déjà parlé. Tu veux en parler
C'est donc une émission faite par la bande à Saint-Remède qui est passée sur FPP à Paris. Et dans cette émission, comme vous allez l'entendre, il y a plein de textes, de lectures de textes tirés de Saint-Remède, d'autres tirés de L'Envolée. Et il y a aussi des interviews de gens qui sont passés par la psychiatrie et qui racontent un peu leur parcours. Et donc là, on va peut-être envoyer la première partie, qui est donc une partie sur l'admission en hôpital psychiatrique. Comment ça se passe ?
Diagnostiqué. J'ai un diagnostic. Il me suit partout. Il me colle à la peau. Je ne suis plus n'importe qui. Je suis malade. Je n'ai plus de questions. J'ai des phases. Je n'ai plus de réponses. J'ai des crises. Je n'ai plus d'actes. J'ai des symptômes. Je n'ai plus de nerfs. J'ai un traitement. Je ne suis plus moi-même. Je suis diagnostiqué.
Très agité, opposant au traitement. Et donc, on a été obligé, de façon très transitoire, de prendre une mesure de contention.
En clair, donc on a été obligé de le mettre dans une chambre d'isolement et puis un peu de l'attacher sur son lit tant que les choses s'apaisent. Hein? Oui, c'est-à-dire qu'il est attaché. Hein? Il est attaché avec des liens spécifiques qu'on a pour nos pour des patients comme ça qui sont en difficulté. Hein? Ah non, enfin, il peut bouger uniquement quand les infirmiers se peuvent libérer un bras, ou etc., ou qu'il aille à la douche, ou etc. Mais, pour l'instant, c'est comme ça. Hein. C'est parce qu'il est, oui, il est très désorganisé, très excité, opposant tout, et je pense qu'il peut être effectivement violent. Alors bien évidemment, vous savez, nous, c'est une situation qui va durer le moins de temps possible. Je crois que c'est important qu'il puisse avoir un traitement en injection au départ, qu'il puisse aller mieux, et rapidement, on pourra envisager une autre organisation des soins pour lui, ça va de soi. Vous avez des patients, je vais vous dire, actuellement, et en même temps, il a, je crois qu'il est rassuré d'être contenu, comme toujours dans ces cas-là. Hein, les patients, nos patients à nous n'aiment pas être violents, n'ont aucun plaisir dans l'agressivité. En général, ils se protègent, ils se défendent, mais donc il est à une certaine manière mécontent évidemment d'être comme ça, mais soulagé d'être contenu et d'être protégé de sa propre agressivité très momentanée. C'est un garçon que je connais bien, donc c'est pas quelqu'un qui a pour son état va durer voilà, c'est pour l'aider, hein, et surtout pour qu'on puisse au niveau de l'équipe mettre en place un traitement efficace et le plus rapidement possible on lèvera cette solution thérapeutique.
Ma première nuit en psychiatrie, c'était il y a un peu plus de 20 ans, donc en 90.
Nathalie, ma première nuit en psychiatrie, Radio Nova.
J'avais 23 ans. Mes parents m'ont invité à boire un café chez eux. C'était l'après-midi et il y avait des amis qui étaient là. Et tout à coup, mon père a fait un geste aux hommes et il a dit « maintenant ». Et donc ils se sont levés, ils m'ont attrapée. Et je me suis débattue, je me suis accrochée au portail pour pas sortir. Ils m'ont mis dans une voiture où il y avait un grillage pour chien entre le conducteur et moi. Et ils m'ont conduit à l'hôpital. Et là, ça a été le basculement, en fait. Ça a été la fin de quelque chose, en fait. La fin d'une innocence. D'abord, je perdais la confiance de ma famille. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. C'était d'abord une espèce de blocos, en fait, pour moi, ce bâtiment. Parce qu'au premier étage, toutes les portes étaient fermées, blindées. Et la première chose qu'on m'a demandé de faire, c'était vider mon sac. Donc mon sac avait été fait. Vider mon sac et de faire l'inventaire de ce que j'avais dans mes affaires. Et je trouvais devant tout le monde, en fait, il y avait les autres patients qui étaient là autour. Et je trouvais que c'était déjà une première atteinte à mon intimité. Le premier accueil, sans qu'il y ait vraiment un entretien avec un médecin ou quoi que ce soit, c'était on me donne un médicament. Donc j'ai d'abord pas voulu le prendre. Et puis, il y a une des filles qui était là à côté qui m'a dit « Prends-le, sinon ça va être une piqûre. » Donc, effectivement, j'ai eu peur, j'ai pris le médicament. Et après, je me suis évanouie, peu de temps après. Ça a été, je pense, un choc. Sans doute le choc de me retrouver dans ce lieu et en même temps, sans doute le médicament qui a dû faire effet. Et j'avais terriblement peur et j'avais l'impression... qu'on voulait me mettre ou pas, qu'on voulait casser ma liberté, casser quelque chose en moi, en fait, et qu'on voulait me mettre ou pas, qu'on voulait me briser. J'ai commencé par détruire tous les textes que j'avais écrits, donc j'avais écrit des textes, des poèmes, et j'ai commencé par tout déchirer parce que je voulais pas qu'on voit qui j'étais, enfin c'était mon intimité, et je voulais pas qu'on y accède. Donc j'ai détruit tout ça le premier soir.
Tout est fermé ici. Les portes, les fenêtres, les stores, les radiateurs, les chambres, les armoires.
I, sans remède, numéro 2.
Ils ont peur que l'ennui dégouline hors les murs, que la folie cadenassée ne se mette à battre le pavé. Pas de pavé pour les dingues, des portes verrouillées et des nantis qui ont les clés. Nous montons, premier étage du pavillon. Je suis en larmes. J'ai encore plus envie de crever qu'il y a 12 heures. Je quitte ma sœur et son mec. Je quitte mes vêtements, mes affaires, mes clopes, mon stylo, mon cahier, mon téléphone. Les revoir sera une entreprise compliquée. Nous sommes alors le 20 novembre déjà. Je suis habillée en pyjama bleu, 10 fois trop grand. J'ai tant pleuré que j'ai encore plus envie de fumer. C'est pas possible, mademoiselle. J'apprendrai vite que rien n'est possible ici, ou pas grand-chose. Et c'est possible de vous foutre mon poing dans la gueule? Je pensais déjà. Après une journée entre hôpital, larmes, ambulance, noir compact, dégueulade. Je ne peux pas fumer. J'aurais mieux fait de crever. J'aurais fumé des clopes, au goût de nuages, et pas senti cette odeur de mépris. Nuit très courte. Réveil en fanfare. Pour que je me lève, une infirmière arrache ma couverture. Ainsi, j'ai froid et je ne reste pas longtemps allongée. Je me cacherai bien sous le matelas, mais je ne crois pas qu'on aime les blagues ici. Ça rigole pas, quoi.
Ma première nuit en psychiatrie a eu lieu il y a 10 ans, le 7 août 1999.
Bruno, ma première nuit en psychiatrie, Radio Nova.
Suite à une dispute avec mon frère, qui est médecin, je pense que ça a son importance, il a appelé les flics en leur racontant je ne sais quoi au téléphone, qui m'ont conduit à l'hôpital local, et de là j'ai été conduit à Sainte-Anne, et ensuite à l'hôpital psychiatrique de Villejuif. Dès que vous arrivez à l'hôpital psychiatrique, on vous retire tout effet personnel, on vous retire tous vos papiers, on vous retire tout votre argent, et on vous met en pyjama. On m'a donné un gobelet à boire en me disant qu'il fallait que je le prenne, sinon, en grosso modo, on allait me faire une piqûre et une injection. Donc quand vous êtes devant un choix, si on peut dire un choix comme ça, ben, vous prenez le gobelet. Et alors après, c'est un peu le grand trou noir. On est privé de son argent, on est privé de ses papiers, alors il faut aller en récupérer auprès du service qui détient votre portefeuille, vos papiers, etc. C'est toujours très compliqué, très long. Et tout est soumis à autorisation, alors il faut demander au petit personnel est-ce qu'on peut avoir une cigarette, est-ce qu'on peut avoir un rasoir, est-ce qu'on peut... On est complètement infantilisé.
C'est tous les jours pareil.
V, sans remède, numéro 1.
Au matin, 6 heures debout, 6h30 dans la douche, petit déjeuner avant 8h. À midi, 11h, le traitement, 11h30, on mange, de 13h à 14h, temps calme, de 14h à 17h, atelier. Entre 17h et 18h30, on a le droit de sortir. Le soir, traitement à 18h30, 19h, repas. Au lit à 22, 23h maximum. On est tous majeurs, mais on n'a pas le droit d'avoir des rapports sexuels, ni d'avoir un copain, et on ne peut pas faire visiter notre chambre. On est par chambre de 2 ou 3 filles, on est 9 filles. On n'a pas le droit d'inviter une copine d'une autre chambre pour écouter de la musique ou discuter. Un coup, on s'est dit, venez les filles, on va se voir quand même. Il y a une éduque qui vient. Vous sortez ou vous serez interdite de sortie. Elle nous a obligés à être chacune dans notre chambre, alors on s'est dit, on va leur taper sur les nerfs nous aussi. On va merder leurs activités en faisant rien. On a fait ça pendant une semaine, quand ils nous demandaient pourquoi. Bah vous êtes pas au courant, on fait grève. Le directeur a levé l'interdiction de sortie, mais on peut toujours pas s'inviter dans nos chambres.
Première prise de conscience.
C'est sans remède numéro 1.
Maintenant, commence la définition de mes limites en tant que soignée, malade, patiente, par le lieu même dans lequel je suis. Le plus généralement une chambre, qu'il m'arrive de partager, une salle fumeur où je passe le plus clair de mon temps, un réfectoire et un jardin éclos. La porte de ma chambre a un hublot, elle ne ferme bien sûr pas de l'intérieur, et quand les volets ne sont pas bloqués en position baissée, de toute façon, je peux à peine entrouvrir la fenêtre pour des raisons de sécurité. Il y a aussi tout un tas de portes fermées. On y remise tout ce dont je pourrais avoir besoin et auquel aucun d'entre nous, les fous à gérer, n'a jamais accès sans un tiers de l'administration. Des serviettes hygiéniques taille obèse incontinent quand j'ai eu le malheur d'avoir mes règles, les draps, les savons, les dentifrices, les couvertures, le shampoing, nous n'avons accès à rien de tout cela. Nous n'avons accès à rien de toute façon. En tenue bleue, les maigres effets que nos proches ont réussi à faire tenir dans une valise nous sont donnés à titre de récompense. Comme, après au minimum une semaine d'alitement, l'éventuel droit de sortir dans le jardin extérieur, de faire 1 à 2 fois par semaine une médiation peinture sur soie, collection Asile, été 2005. Donc, la possibilité cruciale pour moi de m'échapper une petite heure en courant vers le tabac pour la clope et le timbre, courir ensuite jusqu'à la boîte aux lettres à l'autre bout des bâtiments, et revenir essoufflé pour la prise de médoc. Il y a aussi la porte fermée de la chambre d'isolement, avec souvent quelqu'un dedans qui tape et crie.
J'ai entendu une fois un médecin dire, alors qu'on ne voulait pas la laisser à l'hôpital, « Ce sera de votre faute si elle se tue. »
Cas, sans remède numéro 2.
Si vous partez avec elle, vous en prenez la responsabilité. À partir de là, l'institution se donne une grande latitude en termes de traitement et de sévices de toutes sortes, puisqu'elle a l'accord tacite des proches de la personne enfermée. Cela fonctionne très bien, car devant l'impossibilité de sortir quelqu'un de sa souffrance, on est prêt à laisser faire, plus qu'à croire que leur solution est la bonne. Je me suis retrouvé sans comprendre à être l'acteur de cet enfermement, à faire partie des « visites », à être celui qui vient de dehors. Et petit à petit, j'ai fini par laisser faire, en attendant qu'il la change, qu'il la transforme, qu'elle puisse arriver à vivre dehors. En réalité, on ne peut jamais savoir jusqu'où la dépersonnalisation ira. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour, je me suis retrouvé à comprendre que j'avais moins de choses à partager avec elle de sa nouvelle vie que ses co-hospitalisés. À ce moment-là, je me suis rendu compte que l'hôpital est complet, c'est-à-dire qu'il comprend ses espaces de loi, ses règles et ses brèches. Le tout cimenté par les rapports d'autorité soigné-soignant. Malgré mes visites régulières, j'étais absent de ce monde. Je n'étais pas soumis au même ordre. L'institution psychiatrique sépare les moments de la vie d'une personne et sépare aussi les rapports de la vie du dedans et les rapports de la vie du dehors. C'est en rendant cette séparation réelle que le patient rentre dans sa nouvelle peau de malade, plein de potentialités de guérison, terrain de jeu des Psy & Co.
À mon arrivée, la psychiatre chef de ce service m'explique comment fonctionne la structure Marlène, rue 89. Me montre la chambre où je vais être isolée pendant 9 mois sans voir mes parents, ni mes sœurs, ni mes amis. Tout cela à 16 ans. Je suis en effet mise en isolement avec juste un cahier pour écrire mes pensées, le droit à un livre par semaine et rien d'autre. Pas de médias quels qu'ils soient. « Je suis là pour penser à moi, » me disent-ils. « Penser à moi, avec je ne sais combien de grammes d'antidépresseurs qui me font davantage dormir que réfléchir. Voir la lumière quand on vous impose du flou, c'est assez compliqué. » Au début, j'ai le droit à 1 heure de sortie de ma chambre par jour pour voir les autres patients de l'hôpital. Mais comme je ne grossis pas, plus de sortie. Mon espace de vie se résume à ma chambre, point. Ce qui est assez surprenant, c'est la solidarité des autres jeunes patients qui, en cachette du personnel, m'amènent des magazines, viennent me parler. Je fais ainsi passer 2 ou 3 lettres à mes amis, comme cela. Pire qu'en prison, pas de courrier. Mes parents ont dû expliquer à mes amis où j'étais passé. D'après ce qu'on m'a dit, l'isolement dure en général 1 ou 2 mois, mais 6 mois d'isolement total à 16 ans, l'âge de toutes les expériences... C'est long.
S'il vous plaît.
Il a 200
Loxapac. Loxapac n'a jamais calmé, je vous le redis. Ne donnez pas de Loxapac, ça n'a jamais calmé quelqu'un. Bon, c'est toujours. Mais je veux dire, il y a quand même un problème, parce que c'est quand même moi le patron. Donc quand je vous dis des trucs, vous les appliquez, ou sinon je vous fous la porte. Moi, je commence à en avoir marre. Je vois les mecs qui sont agités depuis 10 jours, il n'y a pas d'injection intramusculaire, et vous continuez à mettre des traitements qui ne sont pas sédatifs. Je sais pas, moi. Traitez-les, ces patients-là, enfin.
C'est possible.
Alors, ça se voit, je vois la tête, ils gueulent comme un putois, là, non ? Vous ne voyez pas, ça ?
Ah, bah, si.
Bon, donc, l'équipe n'en peut plus, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Il y a longtemps, dans les premiers temps de mon passage en psy,
Jacques, l'envolé numéro 21.
J'ai eu plein d'autres médicaments différents : Risperdal, Tranxène, Tertian, et d'autres encore. Ça m'a énormément abîmé, et ça fait qu'aujourd'hui, je peux plus vivre sans médicaments, alors qu'avant je pouvais. Il y a 3 ans, j'ai quitté l'appart de Chanteloup. Ma copine m'a quitté, je suis parti 4 mois en Ardèche dans une petite cabane. Je peignais toute la nuit, je fumais, je prêchais aussi tout le temps. Le pote qui habitait là s'est barré parce que j'étais trop chiant. Mais j'étais super bien. J'ai jamais été aussi speed. Et puis, l'allocation adulte handicapé, 610 euros par mois, n'est plus tombée. Alors je suis remonté sur Paris. Là, j'étais pas bien. Retour à la case départ. Je me suis retrouvé à Sainte-Anne, enfermé pendant 3 mois. J'étais mis sous Aldol à ce moment-là. 3 injections par jour, de force. Je suis passé à un état totalement passif. Ça canalise l'énergie, en fait. Pour moi, ça te plonge dans une tiédeur. Avant, j'étais exalté. J'étais violent par moments. Je vivais les choses à fond. Je sentais la chaleur des autres. Mais là, c'était tiède. Je suis entré dans la normalité. On dit, il est stabilisé, il est guéri. Tu vois, ici, tout le monde est stabilisé. Avant l'Aldol, je souffrais, mais j'étais heureux. Même si j'étais pas dans la réalité, c'était moi, ce que j'avais à vivre. Avec le traitement, ce qui fait le plus mal, c'est de plus ressentir d'amour pour les autres. Rien. J'étais dans une situation de crainte, comme si on m'avait enlevé une partie de moi-même. Ma force, avant, c'est ce que je ressentais pour les autres. Ça m'a été anéanti.
Depuis mon arrivée, en effet, je passe 3 à 4 fois par jour au sacro-saint rituel de la prise de médicaments.
C'est sans remède numéro 1.
Des pilules roses, bleues, blanches, des gouttes bien dégueu, amères, auxquelles il faut se plier avant chaque repas, ouvrir le bec, déglutir, dire merci. La dépendance est dans le rituel. Moi, je n'ai plus qu'à observer. Observer, car je ne ressens plus rien. Mais alors, qu'est-ce que je peux avoir soif? On nous donne des gelées aromatisées immondes une fois de temps en temps. Sinon, c'est la tête dans le robinet des douches chiottes, que je commence à fréquenter vraiment souvent. 20 à 30 fois par jour, des fois, pour boire et uriner. Jusqu'à se faire rencarder par un vieux qu'à la cuisine, on peut demander des bouteilles d'eau minérale. Eux, ils s'en foutent. Ils savent très bien que ça va passer. Ils laissent pisser. Sans même aller jusqu'à expliquer que c'est normal. Et c'est vrai que ça passe. C'est la première semaine qui est vraiment dure. Est-ce que c'est vraiment rassurant de savoir que mon corps s'habitue à quelque chose d'aussi fort? Non, évidemment. Après, il y a toute la cohorte d'effets des médicaments que les médecins appellent effets secondaires et parfois dans l'intimité, dommages collatéraux. C'est vrai qu'au vu de l'abolition de tout esprit critique et de toute forme de résistance qui est l'effet recherché, les autres effets ne peuvent être que secondaires. Pour moi, ce sont des effets tout court, qui s'impriment dans mon corps et mon crâne à chaque instant. Les montées de lait, les tremblements, la prise de poids, les crispations de la mâchoire, dormir le jour et pas la nuit, se mettre à fumer. Et j'en passe dans les effets purement physiques, car les effets psychiques ne sont pas moins dévastateurs, même et surtout parce qu'ils sont les effets recherchés par les blouses blanches. Dans mon crâne, tout s'anesthésie. Je ne lis plus, je ne pense plus, je ne réfléchis plus, je ressens. Je ressens le vide, le néant. Alors bien sûr, je ne me révolte plus contre ma condition d'aliéné, et je vais en obtenir des bons points. Un stylo, une feuille, un pull que j'aime pour mettre au-dessus de ma tenue. Mais surtout, j'en conçois un dégoût de moi à peine imaginable. Dans ce monde terne, moche et hostile, je n'ai rien pour nourrir ma tête, pour nourrir mes rêves, et je deviens, à l'image de ce monde, une carcasse vide, sans envie, sans projet, sans ambition pour la vie à venir. Je meurs à l'intérieur. Et personne avec qui en parler. Avec qui parler tout court. Avec qui échanger n'importe quoi, ça fera l'affaire. Un mot, une idée, une pensée, un bête souvenir. Car mon monde social aussi est clos.
Je m'arrangeais de me libérer quand les infirmières du matin partaient. Je cachais les cordons.
Solange, sur les docks, France Culture.
Et comme ça, après, je relevais les manches, comme si, au moment où il y avait le va-et-vient du changement de service à 2 heures. Comme ça, les infirmières d'après-midi, elles croyaient que c'était celle du matin qui m'avait détachée elle-même. Elles ne me rattachaient pas. Ça, j'avais une après-midi de libre.
Tranquille.
Parce que, elle vous importe même pas le bassin quand on était attaché. Alors, j'en arrivais, moi, quand j'en pouvais plus, ben, je ruinais dans mon lit. C'était affreux, hein. Et puis, quand elle vous est... Et puis, elle m'apportait les potions. Je me disais, elles vont me faire dormir. Qu'est-ce qu'elles vont me faire pendant que je dormirai? Je voulais pas prendre les potions. Je me secouais la tête. Ça tombait là. C'était raide. Ça... La camisole, elle devenait toute raide, toute poisseuse. Là, ça me... Ça coupait un peu le cou. Enfin, c'était... Et toutes les femmes étaient dans le même corps. Enfin, peut-être qu'il y en avait qui étaient plus dociles, qui prenaient les potions, mais enfin, quand elles venaient pour me faire une piqûre, je demandais, qu'est-ce que c'est que cette piqûre? T'as pas besoin de savoir, tu n'y connais rien. Moi, j'avais fait un petit peu de latin quand même, un petit peu de grec, je me disais, si elle m'avait dit non, j'aurais un peu compris. Mais enfin, je me doutais que c'était des choses pour me faire dormir, je voulais pas les prendre. Je voulais pas me laisser faire. Alors, je me contractais terriblement, si bien que la moitié du liquide s'écoulait hors du muscle, quoi, au lieu de pénétrer. Ça me faisait mal la piqûre, mais enfin, j'ai réussi à, pendant près de 8 jours, comme ça, presque pas dormir. Je somnolais, évidemment, on ne peut pas rester absolument sans dormir.
C'est pris à la légère par les psys, les prises de poids.
H, sans remède, numéro 2.
Comment les médocs jouent sur les hormones? Comment aussi une personne qui a des troubles depuis 20 ans se connaît? Connaît les ajustements pour les dosages? Ce qu'il lui faut, ce qu'elle supporte mal. Refuser le médicament ou le gober, ça suffit pas. Il faut affiner. Je me suis pas mal mis la pression toute seule quand s'est posée pour moi la question. Si je prends ce médoc, est-ce que je vais être mal vue par les squatteurs militants dont je cherche la reconnaissance? Est-ce que je vais passer pour une faible qui abandonne consentant de son cerveau au système, qui va désormais s'employer à casser sa vraie personnalité? Ça veut dire quoi, ma vraie personnalité? Pour moi, on se constitue dans des rapports par la socialisation. Quand ton délire te coupe complètement de ça et te fait partir en vrille dans un sous-bois pour vivre le délire à fond, parce que le délire et sa solitude sont très attirants aussi. Qu'est-ce qui te reste de ta personnalité coupée de tous les autres et réduit au délire? J'ai parlé du regard des autres comme une peur. Mais le regard de quelqu'un peut aussi être l'hameçon qui t'empêche de partir dans les sous-bois. Aujourd'hui, j'ai arrêté le médoc depuis 1 an et demi, avec l'accord d'un psychiatre, après 5 ans sans épisode délirant.
Ma famille m'a amené.
Youssef, dissensus numéro 16.
Moi, j'étais bloqué. Je parlais plus à personne. La famille est partie et on m'a mis direct en cellule. J'ai fait plusieurs mois de cellule. C'est blanc, carrelé, c'est pas comme en prison. Ici, t'as pas la télé. Il y a un trou de chiottes dont la chasse d'eau est actionnée de l'extérieur. Un matelas en plastique et une ouverture pour la lumière que l'on te ferme quand tu es en crise. On peut te laisser jusqu'à 24 heures dans le noir. Quant à la bouffe, c'est une assiette où tout est mélangé. Une vraie bouillie, c'est dégueulasse. Tu te laves pas, sauf quand t'es calmé. On te sort pour te laver et t'aérer. Ensuite, j'avais ce problème-ci qui me suivait et j'ai fait 10 ans de rechute. Pendant 10 ans, j'ai eu que des mauvais produits et je rechutais. C'était des coupes sexes. C'est des produits qui t'empêchent de faire l'amour. T'éjacules pas, tu bandes pas. Si tu bandes à la rigueur, c'est bien. Tu peux faire plaisir à ta copine. C'est les plus forts, les pires. Mais t'as aussi des calmants, des somnifères. On te gave de médicaments et t'as un légume après. Si tu fais pas l'effort de refuser, on te transforme en légume. À un moment, j'ai arrêté les traitements. J'allais plus au dispensaire. Je me retrouvais normal, puis je rechutais. Puis on me redonnait un autre produit. C'était pas le même à chaque fois. Le meilleur produit, c'est celui que j'ai actuellement. Car 1, je n'ai pas de problème sexuel. 2, j'avais dit au docteur, je bois, je fume du chichon. Donne-moi un produit compatible avec ça. Du coup, il m'a donné du Modécat, qui est bon pour les fumeurs de cannabis. J'ai pas de contre-effet. Alors qu'avec les autres produits, tu pètes les plombs.
Pantalon sous le pyjama. excusez là, vous allez prescrire des injections, s'il vous plaît.
Il a 200 Loxapac, 2 ampoules Loxapac.
Loxapac n'a jamais calmé, je vous le redis. Ne donnez pas de Loxapac, ça n'a jamais calmé quelqu'un. Bon, c'est toujours, mais je veux dire, il y a quand même un problème, parce que c'est quand même moi le patron. Donc quand je vous dis des trucs, vous les appliquez, ou sinon je vous fous la porte, moi, je commence à en avoir marre. Je vois les mecs sont agités depuis 10 jours, il n'y a pas d'injection intramusculaire, et vous continuez à mettre des traitements qui ne sont pas sédatifs. Je sais pas, moi. Traitez-les, ces patients-là, enfin.
Si possible.
Alors, ça se voit, moi, je vois la tête, il gueule comme un putois, là, non ? Vous ne voyez pas, ça ?
Ah, bah, si.
Bon, donc, l'équipe n'en peut plus, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Il y a longtemps, dans les premiers temps de mon passage en psy,
Jacques, l'envolé numéro 21.
J'ai eu plein d'autres médicaments différents. Risperdal, Tranxène, Tertian et d'autres encore. Ça m'a énormément abîmé et ça fait qu'aujourd'hui, je peux plus vivre sans médicaments, alors qu'avant je pouvais. Il y a 3 ans, j'ai quitté l'appart de Chanteloup. Ma copine m'a quitté, je suis parti 4 mois en Ardèche dans une petite cabane. Je peignais toute la nuit, je fumais, je prêchais aussi tout le temps. Le pote qui habitait là s'est barré parce que j'étais trop chiant. Mais j'étais super bien. J'ai jamais été aussi speed. Et puis, l'allocation adulte handicapé, 610 euros par mois, n'est plus tombée. Alors je suis remonté sur Paris. Là, j'étais pas bien. Retour à la case départ. Je me suis retrouvé à Sainte-Anne, enfermé pendant 3 mois. J'étais mis sous Aldol à ce moment-là. 3 injections par jour, de force. Je suis passé à un état totalement passif. Ça canalise l'énergie, en fait. Pour moi, ça te plonge dans une tiédeur. Avant, j'étais exalté. J'étais violent par moments. Je vivais les choses à fond. Je sentais la chaleur des autres. Mais là, c'était tiède. Je suis entré dans la normalité. On dit, il est stabilisé, il est guéri. Tu vois, ici, tout le monde est stabilisé. Avant l'Aldol, je souffrais, mais j'étais heureux. Même si j'étais pas dans la réalité, c'était moi, ce que j'avais à vivre. Avec le traitement, ce qui fait le plus mal, c'est de plus ressentir d'amour pour les autres. Rien. J'étais dans une situation de crainte, comme si on m'avait enlevé une partie de moi-même. Ma force, avant, c'est ce que je ressentais pour les autres. Ça m'a été anéanti.
Depuis mon arrivée, en effet, je passe 3 à 4 fois par jour au sacro-saint rituel de la prise de médicaments.
C'est sans remède numéro 1.
Des pilules roses, bleues, blanches, des gouttes bien dégueux, amères, auxquelles il faut se plier avant chaque repas, ouvrir le bec, déglutir, dire merci. La dépendance est dans le rituel. Moi, je n'ai plus qu'à observer. Observer, car je ne ressens plus rien. Mais alors, qu'est-ce que je peux avoir soif ? On nous donne des gelées aromatisées immondes une fois de temps en temps, sinon... c'est la tête dans le robinet des douches chiottes, que je commence à fréquenter vraiment souvent, 20 à 30 fois par jour des fois, pour boire et uriner, jusqu'à se faire rencarder par un vieux qu'à la cuisine, on peut demander des bouteilles d'eau minérale. Eux, ils s'en foutent, ils savent très bien que ça va passer, ils laissent pisser, sans même aller jusqu'à expliquer que c'est normal. Et c'est vrai que ça passe, c'est la première semaine qui est vraiment dure. Est-ce que c'est vraiment rassurant de savoir que mon corps s'habitue à quelque chose d'aussi fort ? Non, évidemment. Après, il y a toute la cohorte d'effets des médicaments que les médecins appellent effets secondaires et parfois dans l'intimité, dommages collatéraux. C'est vrai qu'au vu de l'abolition de tout esprit critique et de toute forme de résistance qui est l'effet recherché, les autres effets ne peuvent être que secondaires. Pour moi, ce sont des effets tout court, qui s'impriment dans mon corps et mon crâne à chaque instant. Les montées de lait, les tremblements, la prise de poids, les crispations de la mâchoire, dormir le jour et pas la nuit, se mettre à fumer... Et j'en passe dans les effets purement physiques, car les effets psychiques ne sont pas moins dévastateurs, même et surtout parce qu'ils sont les effets recherchés par les blouses blanches. Dans mon crâne, tout s'anesthésie. Je ne lis plus, je ne pense plus, je ne réfléchis plus, je ressens. Je ressens le vide, le néant. Alors bien sûr, je ne me révolte plus contre ma condition d'aliéné, et je vais en obtenir des bons points. Un stylo, une feuille, un pull que j'aime pour mettre au-dessus de ma tenue. Mais surtout... j'en conçois un dégoût de moi à peine imaginable. Dans ce monde terne, moche et hostile, je n'ai rien pour nourrir ma tête, pour nourrir mes rêves, et je deviens, à l'image de ce monde, une carcasse vide, sans envie, sans projet, sans ambition pour la vie à venir.
Je meurs à l'intérieur. Et personne avec qui en parler. Avec qui parler tout court. Avec qui échanger n'importe quoi, ça fera l'affaire. Un mot, une idée, une pensée, un bête souvenir. Car mon monde social aussi est clos.
Je m'arrangeais de me libérer quand les infirmières du matin partaient. Je cachais les cordons.
Solange, sur les docks, France Culture.
Et comme ça, après, je relevais les manches, comme si, au moment où il y avait le va-et-vient du changement de service à 2 heures. Comme ça, les infirmières d'après-midi, elles croyaient que c'était celle du matin qui m'avait détaché elle-même. Elles ne me rattachaient pas. Ça, j'avais une après-midi de libre.
Tranquille.
Parce que, elle vous apporte même pas le bassin quand on était attaché. Alors, j'en arrivais, moi, quand j'en pouvais plus, je ruinais dans mon lit. C'était affreux, hein. Et puis, quand elle vous est. Et puis, elle m'apportait les potions. Je me disais, elles vont me faire dormir. Qu'est-ce qu'elles vont me faire pendant que je dormirai? Je voulais pas prendre les potions. Je secouais la tête, ça tombait là. C'était raide. Ça, la camisole devenait toute raide, toute poisseuse. Là, ça me. Ça coupait un peu le cou. Hein. Enfin, c'était. Et toutes les femmes étaient dans le même corps. Enfin, peut-être qu'il y en avait qui étaient plus dociles, qui prenaient les potions, mais enfin, quand elles venaient pour me faire une piqûre, je demandais, qu'est-ce que c'est que cette piqûre? T'as pas besoin de le savoir, tu n'y connais rien. J'avais fait un petit peu de latin quand même, un petit peu de grec, je me disais, si elle m'avait dit non, j'aurais un peu compris. Mais enfin, je me doutais que c'était des choses pour me faire dormir, je voulais pas les prendre. Je voulais pas me laisser faire. Alors, je me contractais terriblement, si bien que la moitié du liquide s'écoulait hors du muscle, quoi, au lieu de pénétrer. Ça me faisait mal la piqûre, mais enfin, j'ai réussi à, pendant près de 8 jours, comme ça, presque pas dormir. Je somnolais, évidemment, on ne peut pas rester absolument sans dormir.
C'est pris à la légère par les psys, les prises de poids.
H, sans remède, numéro 2.
Comment les médocs jouent sur les hormones? Comment aussi une personne qui a des troubles depuis 20 ans se connaît? Connaît les ajustements pour les dosages? Ce qu'il lui faut, ce qu'elle supporte mal. Refuser le médicament ou le gober, ça suffit pas. Il faut affiner. Je me suis pas mal mis la pression toute seule quand s'est posée pour moi la question. Si je prends ce médoc, est-ce que je vais être mal vue par les squatteurs militants? Dont je cherche la reconnaissance. Est-ce que je vais passer pour une faible qui abandonne consentant de son cerveau au système, qui va désormais s'employer à casser sa vraie personnalité? Ça veut dire quoi, ma vraie personnalité? Pour moi, on se constitue dans des rapports par la socialisation. Quand ton délire te coupe complètement de ça et te fait partir en vrille dans un sous-bois pour vivre le délire à fond, parce que le délire et sa solitude sont très attirants aussi. Qu'est-ce qui te reste de ta personnalité coupée de tous les autres et réduit au délire? J'ai parlé du regard des autres comme une peur. Mais le regard de quelqu'un peut aussi être l'hameçon qui t'empêche de partir dans les sous-bois. Aujourd'hui, j'ai arrêté le médoc depuis 1 an et demi, avec l'accord d'un psychiatre, après 5 ans sans épisode délirant.
Ma famille m'a amené.
Youssef, dissensus numéro 16.
Moi, j'étais bloqué. Je parlais plus à personne. La famille est partie et on m'a mis direct en cellule. J'ai fait plusieurs mois de cellule. C'est blanc, carrelé, c'est pas comme en prison. Ici, t'as pas la télé. Y a un trou de chiottes dont la chasse d'eau est actionnée de l'extérieur. Un matelas en plastique et une ouverture pour la lumière que l'on te ferme quand tu es en crise. On peut te laisser jusqu'à 24 heures dans le noir. Quant à la bouffe, c'est une assiette où tout est mélangé. Une vraie bouillie, c'est dégueulasse. Tu te laves pas, sauf quand t'es calmé. On te sort pour te laver et t'aérer. Ensuite, j'avais ce problème-ci qui me suivait et j'ai fait 10 ans de rechute. Pendant 10 ans, j'ai eu que des mauvais produits et je rechutais. C'était des coupe-sexes. C'est des produits qui t'empêchent de faire l'amour. T'éjacules pas, tu bandes pas. Si tu bandes à la rigueur, c'est bien. Tu peux faire plaisir à ta copine. C'est les plus forts, les pires. Mais t'as aussi des calmants, des somnifères. On te gave de médicaments et t'as un légume après. Si tu fais pas l'effort de refuser, on te transforme en légume. À un moment, j'ai arrêté les traitements. J'allais plus au dispensaire. Je me retrouvais normal, puis je rechutais. Puis on me redonnait un autre produit. C'était pas le même à chaque fois. Le meilleur produit, c'est celui que j'ai actuellement. Car 1, je n'ai pas de problème sexuel. 2, j'avais dit au docteur, je bois, je fume du chichon. Donne-moi un produit compatible avec ça. Du coup, il m'a donné du Modecat, qui est bon pour les fumeurs de cannabis. J'ai pas de contre-effet. Alors qu'avec les autres produits, tu pètes les plombs.
C'est nickel. Il y a un souci. T'as ton pantalon sous le pyjama. Le pantalon, faut l'enlever. Hein. Ça marche si tu n'as que le pyjama. Avant de mettre les chaussures, tu retires le pantalon.
Je suis frileuse.
C'est pas grave. D'accord.
C'est grave pour moi. Non. Tu vas me donner une couverture.
Mais si t'es frileuse, déjà, tu sors
pas
dehors.
Fumer.
Non, bah non, t'es frileuse, tu vas pas sortir fumer.
Mais si j'ai un pantalon.
Ah non, non. C'est, le truc, c'est qu'à l'intérieur, il fait bon. T'as pas besoin d'avoir double épaisseur de pyjama. Et si tu veux sortir fumer, tu te les jettes dehors. Le fumer, c'est pas un dû, hein. C'est parce que c'est nécessaire au sort.
C'est une finition.
C'est pas une finition, t'as envie de fumer. Mais tu y vas, mais dans l'état où tu es. On va en plus te couvrir pour que t'ailles fumer.
À l'hôpital psychiatrique, vous n'êtes pas considéré comme un homme par le personnel.
Snack, l'envolé numéro 26.
Si vous êtes ici, surtout dans le cas d'une hospitalisation d'office ou à la demande d'un tiers, c'est que vous êtes un incapable majeur. Ainsi s'initie le processus d'infantilisation du malade. Le seul moyen de se plaindre si vous jugez avoir été interné à tort est d'écrire à un service de la préfecture de votre lieu d'enfermement. Et comme la médecine est une science exacte pour ses praticiens, il n'est pas rare d'être abreuvé de médicaments pour vous assommer, de sorte que vous ne pourrez même plus tenir un stylo. Le médecin règne en maître absolu dans son royaume. C'est lui qui décide de tout. Du traitement à prendre, jusque-là ça paraît logique, c'est-à-dire de l'absorption obligatoire de petites pilules sous peine de piqûres forcées. D'ailleurs, lors de mes passages dans ce genre d'institution, j'ai toujours demandé à pouvoir consulter la notice du médicament à prendre, mais je n'ai jamais eu ce privilège. Le médecin décide de vos visites, de votre nourriture, des habits que vous devez porter, habits civils ou pyjama avec chaussons en papier, au cas où vous voudriez vous évader, ainsi vous serez repéré tout de suite. S'il vous passe par la tête l'envie de faire des activités, c'est à son bon vouloir. Le médecin choisit votre chambre, qui est une cellule qui ne dit pas son nom, avec dans certains cas une porte blindée et des barreaux aux fenêtres, qui n'ont pas la même forme que ceux des prisons, mais qui en ont la même fonction. Et le psychiatre de répondre « C'est pour faire joli, monsieur, c'est pour décorer. » En résumé, et dans la pure intention de ne pas tomber dans le langage familier, c'est la grande farce générale. Mais il y a mieux. À l'hôpital Albert-Chenevier de Créteil, en unité fermée, un même médicament est distribué à tous les patients, et ce, quelle que soit leur pathologie. Il y a même un mitard dans l'unité, enfin, une chambre d'isolement pour le patient, dira le psychiatre. Et c'est pour le bien du patient qu'on y a recours.
Prends mon mal en patience une demi-heure durant encore.
C'est écrit en isolement.
Miss Botte-Cavalière a décidé que je ne sortirai qu'à partir de 10 heures. Avec personne pour me surveiller apparemment. D'ordinaire, personne ne me surveille. Ou alors très discrètement. J'en peux plus d'être en isolement. Ils sont de nouveau en retard et moi je ne sais pas pour combien de temps. Quelques minutes, une heure, un oubli total. On sait jamais vraiment et c'est ça le pire. C'est ça l'affreux. Enfermé, dépendant du bon vouloir de celui de l'extérieur, de celui qui a la clé pour la clope, la douche, tout. Et aujourd'hui c'est une vraie salope.
J'entre. Passage par le service de sécurité qui s'appelle accueil.
Oh, sans remède numéro 1.
Grille, caméra, contrôle. Pas trace du désordre que j'appelle la vie. Je cherche la différence avec la tôle et je me sens mal à l'aise. Où je suis ? D'unité en unité, couloir désert, porte fermée, salle commune aux peintures ignifugées, porte fermée, unie partout dans un pastel dégueu, vitres et portes épaisses, carrelage partout, clé, code, porte fermée, service de sécurité. Les gens sont stockés sur des bancs, des chaises, et des blouses blanches passent. Parfois, s'adressent aux personnes façon « On a attaché ces lacets ?» ou sont entre eux dans leur local. Les équipes médicales m'accueillent chaleureusement, me font visiter les lieux, me présentent des patients qu'ils semblent choisir, commentent en leur présence leur cas, en me prenant à partie d'un air complice ou pédagogue. Angoisse. J'apprends que ce monde est divisé en deux. Soignant, VS, soigné. Et déjà, je me rends compte que la place à laquelle je suis, c'est du côté du pouvoir. Pouvoir de sortie, d'horaire, d'activité, de parole, de décision. Je bénéficie du prestige de la caution artistique. Les artistes sont des gens extraordinaires et divertissants. Et si je veux, ce soir, je passerai le portail car je ne suis pas diagnostiquée folle. Un soignant me montre les chambres d'isolement avec un mélange de frissons d'excitation et de justification sur la nécessité d'en avoir, et ce sont souvent les patients qui demandent à y aller. Dans un discours tout théâtral que j'écoute à peine, car je vois un visage derrière la vitre et un regard qui me traverse en même temps, que la question qui me reviendra souvent, comment on peut faire ça et comment je peux assister à ça? Ceux qui règnent sur l'autopsie sont les psychiatres. Tout passe par eux, même les activités se font sur ordonnance. Les patients les voient environ 10 minutes par semaine. Ce sont eux les experts qui déterminent la maladie et son traitement. Leur pouvoir est énorme, c'est un pouvoir de vie ou de mort, d'enfermement ou de liberté, et plein d'autres beaucoup plus petits auxquels j'ai eu affaire. Mon rapport avec eux commence par la constitution des groupes. Évidemment, ce sont eux qui ont le dernier mot sur la liste des personnes pouvant participer aux ateliers. Et par la suite, entre indifférence et hostilité, tout est compliqué. Une sortie, tout doit être anticipé au millimètre sous peine d'annulation. Mettre les chaises dehors parce qu'il fait beau, pas prévu, pas possible. Une soignante se comporte en facho avec un jeune, elle est protégée. Car ce sont aussi des chefs d'équipe. Les soignants leur obéissent autant qu'ils les détestent, et les psys les défendent autant qu'ils les méprisent. Mais qui sont les tarés? Ceux qui bossent là et qui considèrent les internés comme des personnes sont rarissimes. Ceux qui s'interrogent sur ce qu'ils font, encore plus.
puis cette menace du médecin.
Jacques, l'envolé numéro 21.
Je me sens toujours le jouet de gens que je trouve incompétents, froids, durs, sans la moindre empathie. Ils se retranchent dans leur déontologie, c'est le terme. Ils doivent garder de la distance. Toi, tu souffres de maux dont tu ne connais pas les mécanismes. Et face à toi, quelqu'un qui attend que tu lui parles. Mais pour en faire quoi ? Incapable d'apporter ce dont j'avais besoin. D'amour. Il m'a mis sous Aldol pendant 2 ans et demi. Je pense aussi à un autre médicament. Le Clopixol, qui m'allait bien avec mon métabolisme. C'est moins fort, mais c'est en injection. Et là, beaucoup plus, pour qu'il baisse. Lui, il est considéré comme un bon médecin, par ses collègues. Moi, j'ai peur de sa façon de voir les choses. Il aimerait que je sois comme lui, que tout le monde soit comme lui. Moi, si j'ai envie de chanter dans la rue, par exemple, ce sera considéré comme un débordement. Du coup, je ne lui parle plus de mes projets. Trouver un appart, bosser un peu pendant quelques mois, parce que la loc, c'est vraiment pas beaucoup. Vendre un peu ma peinture. Pour eux, ils sont obligés de me faire confiance. Mais en fait, c'est à moi de leur faire confiance ou pas. Tout est inversé dans leur façon de voir les choses. De temps en temps, je me suis demandé comment ils abordent la vie, avec leurs femmes, leurs maris, leurs enfants, leurs amis. Pour eux, chaque geste, chaque pensée des autres doit être analysée, dissociée d'une forme de réalité. Pour moi, un bon psy, ça devrait être quelqu'un qui met des points d'interrogation, capable de s'introspecter lui-même, pas simplement les autres. Je lui ai dit, je me sens pas à l'aise avec vous. Je ne vous aime pas. Il a souri. Il ne peut pas comprendre qu'on est tous uniques, qu'on ne ressemble pas aux autres trait pour trait. Comme dans la nature, aucun oiseau ne ressemble trait pour trait à un autre.
Sol en béton froid, mur en béton, rage en béton armé, désespoir en matière inoxydable.
I, sans remède numéro 2.
Les gardes, pardon, les personnels soignants passent leur temps à nous compter et nous fermer les portes au nez. Vous irez fumer quand on aura pris notre petit déjeuner. Ils n'ont pas de café chez eux. Fumer nos clopes, fermer les chambres, repris un café, refumer une clope, la liste est longue. Pendant ce temps, c'est le défilé aux chiottes. Un seul pour 20 personnes hospitalisées pour fumer. On y va à 2, 3, pour que tout le monde puisse passer. Mecs, meufs, ensemble, dans cet espace qui pue plus la fumée que la pisse au fur et à mesure que l'attente se prolonge. Pour nous dissuader, une affiche représentant une cigarette et tous ses composants poison est collée sur la porte des toilettes. Mort de rire. Et ils nous bassinent avec le « c'est interdit de fumer dans les lieux publics, à l'hôpital, c'est pas bon pour la santé ». Et ta sale gueule qui m'impose de prendre des sales médocs. Elle n'est pas bonne pour ma santé non plus ? Argument suprême. Vous n'avez pas le droit de vous enfermer dans les chiottes à plusieurs. Encore plus si mecs et meufs se mélangent. Pas de relations sexuelles ici. C'est interdit. C'est aussi mauvais pour la santé ? Un jour, je sors avec un pote des chiottes. On venait de fumer. Une infirmière nous cueille à la sortie et mon pote devance la réprimande. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas fumé. Avec mademoiselle I, c'est purement sexuel. Mort de rire. L'autre fait une tranche de 6 pieds de long. Elle en réfère. Entretien avec la psychiatre le lendemain pour tous les deux. On a la même. Et question. Quels sont vos rapports avec monsieur C ? Et pareil pour mon pote. Quel rapport entretenez-vous avec mademoiselle I ? Elle y avait cru. Ici, le second degré existe très rarement. L'humour, je l'ai déjà dit, est banni. Donc, pas de cul. Et comme on est en chambre de 3, pas moyen de se masturber tranquille. Range ta libido, range tes envies, range ta vie. Nettoie-toi de tes idées morbides, morveuses, et tu te sentiras tellement mieux. Je reste avec le corps. Pendant 3 jours, je réclame au moins une culotte et mon soutien-gorge. Je leur aurais demandé un flingue, j'aurais peut-être eu plus de chance. Non, pas possible, c'est encore dangereux ? Dangereux. Ah ouais, je peux me pendre avec mon soutien-gorge. 55 kilos au bout d'un morceau de dentelle, ça promet. Voire me crever un œil avec une baleine. Et je vais fumer ma culotte, peut-être ? J'en peux déjà plus. J'ai mal au sein, je me sens moche, vulnérable. J'ai mal au bide, d'angoisse, j'ai froid. Il me faut attendre que ma mère ait droit à une visite pour que je récupère mes habits. Je dois être présentable tout de même. Habits du dimanche, flonflon. Une fois la visite terminée, pyjama, rideau, le spectacle est fini. Coulisses. La tenue de scène est rangée au placard, inaccessible, des infirmiers. Finalement, je vais pouvoir m'habiller en civil, au bout de ces quelques jours. Récompense, bonne conduite, hasard, décision arbitraire. Je ne sais pas. Mais j'ai pris une douche brûlante et remets des vêtements familiers. Je veux sortir.
P, sans remède numéro 3.
On me bouscule, on me ramène. Je cherche à me laisser tomber. On me soulève. Je me retrouve allongée sur le ventre, tenue de tous côtés. Je me débats, je crie, je ne peux plus bouger. Et dans la fesse, une douleur inouïe. Juste avant cette piqûre, je l'ai vu écrire. Il a noté les pathologies qu'il croyait discerner, les symptômes. Il a cherché à faire entrer la nouvelle patiente que j'étais dans une case, afin de savoir quelle pilule, de la blanche ou de la jaune, il me faudra avaler. J'aurais aimé que les soignants m'écoutent, qu'ils me racontent ensuite, revenu à moi, ce que je racontais alors. Peut-être achètent-ils de la poésie. Bien rangée sur des étagères, elle ne leur fait pas peur. Quand elle se propulse dans la rue, qu'elle remue la vie bien ordonnée de leur hôpital, ils la rentrent au plus profond de la chair avec des seringues de fer. On assèche les racines à coups de produits puissants, car on ne connaît pas cette sorte de plante. On a peur de ce mystère.
Mais d'abord, avant les entretiens, il y avait la réunion d'équipe comprenant le personnel infirmier, les internes, les psychiatres en titre, les psychologues, les stagiaires.
André, pour en finir avec la psychiatrie.
Elle avait lieu dans l'aquarium, salle vitrée d'une dizaine de mètres carrés, qui avait vue panoramique sur la salle de télévision d'Estérel et où était dressée la table à manger des infirmiers et infirmières. Après cette réunion, les entretiens individuels commençaient, souvent en présence d'un infirmier ou d'une infirmière, malgré le secret médical. Mais en matière psychiatrique, la principale personne à laquelle on oppose le secret médical, c'est le ou la patiente, et pas l'entourage, surtout pas la famille, sacro-saint pilier de l'édifice psychiatrique. Encore moins les dizaines de membres du personnel auxquels aucune barrière n'est mise. Le diagnostic, et surtout le traitement, la nécessité de l'enfermement, sont discutés entre gens bien, entre gens sensés. Le patient se retrouve ainsi diminué de lui-même, aliéné, déforgé de sa propre personnalité, voire de sa propre histoire. Les infirmiers et infirmières vivaient littéralement à part, à l'écart de moi-même, comme des autres patients. À chaque fois qu'on essayait, moi ou d'autres, de les approcher pour essayer de savoir ou de demander quelque chose, les engueulades et remises à l'ordre fusaient, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Une personne SDF que je connais depuis un certain nombre d'années m'a dit un jour, alors qu'elle avait reçu la notification de sa mise sous tutelle par le tribunal d'instance, « On est des déchets pour eux. » Je crois qu'il n'y a pas de mot plus juste.
Ça ne dérange pas de voir un tribunal parce que j'ai enfermé quelqu'un 5 jours ou 6 jours de trop. Parce que d'abord, les gens ne vous en veulent pas vraiment. On vous occupez de vous, voyez ce que vous avez râle sur le coup parce que ça fait de tirant, tout ce qu'on veut. Mais fondamentalement, ils pensent que les médecins qui prennent leur responsabilité sont plutôt des bons médecins. Que, vous voyez ce que je veux dire? Bon, Alors après, on peut s'expliquer, des fois, je m'ai enfermé un peu à tort quelques jours, mais bon, ils m'ont jamais voulu vraiment.
Sortie, devant le mur de l'hôpital.
P, sur les médocs.
J'observe les voitures qui glissent le long de la route. À cet instant, je ne pense pas. Je suis vide. Mais maintenant, je me vois. Un arbrisseau auquel on a coupé ses racines et que l'on jette dans la pente, lui ordonnant d'aller aussi vite que ses machines bruyantes.
Et c'est pour cela qu'il est impossible de se construire contre l'HP.
C, sans remède numéro 1.
Parce qu'il nous faut admettre que nous en avons besoin. Parce que de gré ou de force, nous devons accepter leur lecture de nos symptômes. Nous devons être partie prenante de leur méthode thérapeutique si nous voulons sortir de notre marasme. Il n'y a qu'un moyen de guérir, le leur. Moi qui n'étais malade que du monde dans lequel je vivais, alors que ma tentative de suicide n'avait été qu'une réaction, on m'a persuadé que j'avais telle maladie et que le traitement à suivre était celui que l'on m'imposait, pour mon bien. L'identité de dépressive m'a collé à la peau plus de 4 années durant. Qui peut s'épanouir, avoir des projets, des ambitions, quand il se reconnaît lui-même comme malade, comme limité par essence, limité par la maladie, par le traitement, par le lieu dans lequel on lui dispense des soins. Si l'hôpital a les moyens de sauver in extremis la petite vie usée dont nous ne voulons plus, en revanche, il n'a pas les moyens de nous guérir. Contrer une tentative de suicide, c'est facile, en abrutissant les gens de médicaments ou en les enfermant jusqu'à ce qu'ils se calment dans des cellules d'isolement. Mais guérir les douleurs, prendre soin des individus rendus fragiles, parler, sortir quelqu'un de sa solitude et de ses cercles vicieux, le système psychiatrique en est incapable. La psychiatrie institutionnelle ne sauve des gens que parce qu'elle a des gardes-chiourmes, des murs et des camisoles chimiques à sa disposition. L'HP condamne à vivre une vie impossible à aimer.
Est-ce qu'on arrête un jour de prendre des médicaments, une fois qu'on a commencé ?
P, sans remède numéro 3.
C'est la question que je me pose. J'ai à peine 25 ans et je viens de les arrêter. Pour combien de temps ? Je vois déjà la tête de ma psychiatre, l'air dépité. Je vous avais bien dit qu'il ne fallait pas les arrêter. Une fois que l'on a commencé, on est piégé. Puisque ça va bien, je ne vais pas prendre le risque que ça n'aille pas. Et le psychiatre réagit de la même manière. Puisqu'elle va bien, pourquoi prendre le risque que ça n'aille pas ? Au-dessus, en dessous, contre les médicaments repose le spectre blanchâtre, livide, de l'hospitalisation. Que sont exactement ces médicaments ? Comment agissent-ils ? On vit avec, certes, mais on ne sait pas comment. Invisible, inodore, mystérieux. Agissant par des voies impénétrables. Seuls les médecins disent en savoir plus. Quand je vais bien, ils me disent que les médicaments y sont pour quelque chose. Quand je vais mal, les médicaments n'y sont pour rien. On ne sait pas. Difficile de savoir exactement. Comment savoir ? La seule chose dont ils sont sûrs, c'est qu'il ne faut pas les arrêter. Une machine en marche, un rouage étranger prend à l'intérieur de mon corps. Et la question cruciale est de savoir si je pourrais désormais vivre sans, puisque j'ai vécu avec.
Avec les retrouvailles avec les proches et notamment les enfants.
Marie, ma première nuit en psychiatrie, Radio Nova.
On se force vraiment à montrer qu'on va du mieux possible alors qu'on est quand même freiné par tous ces médicaments et par la routine subie et la solitude supportée.
À la fin de mon hospitalisation dans mon deuxième pays, je décide d'arrêter toute médication et de me débrouiller seule.
Anonyme. Pour en finir avec la psychiatrie.
Je vois cependant régulièrement un ami psychiatre à qui je demande une ordonnance par sécurité. Il rechigne un peu car il prend sa retraite le mois suivant. Néanmoins, il me prescrit de l'aldol en me disant que je peux l'utiliser pour couper une crise et du soliant plus léger que je peux prendre pour me maintenir. Toutefois, inquiet pour moi, il fait pression, par habitude professionnelle aussi, je suppose, pour que je me médique. Et, à chaque fois que je le vois, il fait pression, et cela me décourage, même si ce n'est que sous forme de désapprobation du fait que je refuse les médicaments ou d'inquiétude pour mon sort. Un jour, me voyant toujours dans un état psychique peu stable et tourmenté, il me demande si je ne prends toujours rien. Je lui réponds que non. Et, au lieu de faire pression, il lâche prise soudainement et me dit « Bah, si tu as confiance comme cela... » J'ai eu soudain un sentiment de libération et puis celui d'être reconnu comme apte au choix, comme apte à trouver ce qui me convient sans être forcé. J'avais le droit d'avoir confiance et ce droit était reconnu. La conséquence, c'est que, 15 jours plus tard, alors que mon état psychique se dégrade, je reconnais des symptômes inquiétants qui me disent que la souffrance insupportable à faire péter les plombs n'est pas loin, je choisis moi-même de prendre les médicaments qu'il m'a prescrits, avec intelligence, car pas question de rester sous aldol indéfiniment, mais d'alléger le traitement une fois la crise coupée. Je suis bien malheureuse d'avoir à le dire, ce n'est pas avec la psychiatrie que j'ai pu reprendre durablement ma vie en main et aller dans le sens de la guérison. Néanmoins, je suis capable de nuancer mon propos. Je sais que certains s'en sortent grâce à la psychiatrie et trouvent là un système qui leur convient. Mais ceux que j'ai connus dans ce cas, ce sont des personnes qui étaient légèrement atteintes, qui passaient très peu de temps en institution et qui étaient bien intégrées socialement. Les autres restent désespérément englués dans ce système, obligés de recourir aux pensions d'invalidité et autres subsides. Mon impression globale reste celle d'un système peu adéquat, inhumain, qui ne connaît aucune compassion, qui fait plus de dégâts que de réparation, usant de la force qui n'est souvent pas différente de la violence dans ce contexte, car accompagnée de la répression et de l'exclusion. Toutes ces pratiques qui ne mènent pas bien loin, ni humainement, ni socialement.
La psychiatrie sans moi a un bon avenir, parce qu'elle est bien nourrie, la société la nourrit bien.
Youssef, dissensus numéro 16.
Elle lui envoie plein de clients, tous les jours, toutes les semaines. T'as des urgences qui arrivent. Un mec qui s'est flingué, un mec qui a trop bu, t'as de tout. T'as plein de gens qui ont rien à faire là-bas. Des gens qui ont juste des angoisses et qui se retrouvent en cellule. Ces gens-là, quand ils se retrouvent en HP, ils sont dans la main de la psy. J'ai des amis qui sont là-bas, dans un état de plus en plus grave. Ils perdent leurs dents parce qu'ils n'ont pas de suivi social. Ils mangent mal, ils grossissent ou ils maigrissent. Ils vivent mal, je suis sûr qu'ils sont malheureux. S'ils avaient l'occasion de se flinguer, le courage de se flinguer, ils le feraient. Et il faut du courage quand tu te retrouves au plus bas de l'échelon de la société, dans le plus bas état du vivant. C'est grave, la société est en échec, là. C'est la société qui fait les malades, c'est la société qui fait qu'il y en a qui réussissent et qu'il y en a non. C'est la société qui fait les sadiques et les pires des malades.
It was almost like they almost went into denial.
Ron Coleman, sur les docks, France Culture.
People started saying strange things like.
Le plus surprenant pour moi, ça a été la réaction des professionnels au rétablissement. C'est comme s'ils n'arrivaient pas, ils ne savaient pas comment l'appréhender, et il y a eu pratiquement des réactions de déni. Du genre Ron Coleman n'est pas un schizophrène normal. Ron Coleman n'a jamais été vraiment schizophrène. Certains sont arrivés à dire que j'avais passé 10 ans en psychiatrie parce que je voulais des vacances. C'était comme s'il était impossible de penser ce rétablissement.
The real paradox for me is that psychiatry sits within a health system. But it doesn't believe in health. It only believes in illness. If you're ill,
Et le vrai paradoxe dans cette histoire pour moi, c'est que alors que la psychiatrie se situe dans le système de santé, en réalité elle ne croit pas à la santé, elle ne croit qu'à la maladie. Lorsqu'on est malade, on est accepté dans le domaine de la psychiatrie, alors que lorsqu'on est rétabli, on n'est pas cru.
There becomes almost a codependent relationship, I think, in psychiatry. Where if you tell someone often enough that they cannot get better, then they will not get better. And psychiatry reinforces this idea of illness with you all the time. So they will say, you will never have a proper life.
En fait, c'est une relation de codépendance qui s'instaure entre le psychiatre et son patient. Et quand effectivement on commence à dire aux personnes « mais vous ne pourrez pas aller mieux », effectivement elles n'iront jamais mieux. De la même façon, quand on leur dit « mais vous n'aurez jamais une vie normale, vous ne pourrez pas vous marier, avoir des enfants », en fait ça produit tout simplement une exclusion de la société dans laquelle les personnes vivent. Et
le nombre de personnes que nous rencontrons qui font exactement ce que j'ai fait, qui disent: hello, my name is Ron and I am a schizophrenic. Not my name is Ron and I like football, but I am a schizophrenic.
And en fait, on commence toujours à y croire quand on est, en tant qu'usager, on finit toujours par croire à ce discours-là, à l'intégrer nous-mêmes. Et les personnes qu'on a vues aujourd'hui, par exemple, elles font comme moi j'ai fait, elles finissent par se décrire comme schizophrène en disant « je suis schizophrène ». Et un tel usage du langage, ça fait que schizophrène devient un nom, ce n'est plus descriptif, c'est ce que je suis à proprement parler. Et ça, c'est quelque chose de très triste, et la psychiatrie produit ça.
Donc vous étiez bien sur ND Chaîne 88.4 sur les ondes de Radio Galère, et donc ce soir on a donc pu entendre une émission tirée de Sans Remède, qui est donc un journal de réflexion autour de l'enfermement psychiatrique, où c'est pas mal de personnes qui ont eu affaire à la psychiatrie, que ce soit sous forme de médoc ou sous forme d'enfermement en HP, ou les deux à la fois, parce qu'en général c'est les deux, qui témoignent de leur parcours. Sans Remède, c'est aussi un journal de réflexion sur comment un peu réagir face à la folie, voilà. Et vous pouvez retrouver tous les numéros de Sans Remède sur internet en tapant Sans Remède. Et on se retrouve la semaine prochaine sur ND Chaîne.
Sur Radio Galère, la radio des galères.
Il y a du Mistral dans le capital, le bateau ivre vire, sombre il tangue mais ne coule pas. Et enfin en pleine mer, sacrifier nos pères, au cœur de la tempête, d'un jour où on pêche des jours de fête. Alors ouais, c'est difficile de croire à leur perte quand on est marqué au fer rouge de la défaite. Mais sachons savourer notre haine et comme des diables se battre contre l'enfer. Que les sirènes chantent et que le feu nous enchante.